caillou dans la chaussure, bonjour. Au sommaire de ce dernier numéro de l'année scolaire, en dernière partie d'émission, nous vous proposerons d'entrer en saison de festival avec plusieurs idées d'expositions et sorties à partager avec les enfants. Mais il est un autre festival, le FID Marseille, qui se déroulera cette année du 7 au 12 juillet, au cœur duquel l'écran parallèle Les Sentiers est une programmation de photokino. Nous retrouvons Nathalie Guimard en cœur de l'émission. Nathalie, bonjour.
Bonjour Marie-Dominique. Et oui, c'est déjà la 5e édition des Sentiers pour tous les plus de 6 ans. Et nous retrouvons cette année en salle 15 nouveaux films, anciens ou nouveaux.
Merci Nathalie, à tout à l'heure. Et tout de suite, partageons l'imaginaire de Vincent Bourgeot, auteur-illustrateur, dont le dernier album paru Au-delà de moi aux éditions Thierry Magnier laisse deviner un auteur-illustrateur tendre et passionné. Nous vous donnons à entendre sa voix, il est grand, discret et pétillant. Vincent Bourgeot, bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous dans les studios de Radio Grenouille, puisque Vincent Bourgeot, vous vivez et travaillez à Marseille.
Oui, bonjour.
Alors, pour une très brève présentation, je dirais, Vincent Bourgeot, que vous venez de Belgique, où vous avez grandi. C'est à Bruxelles que vous avez débuté votre formation à l'école Saint-Luc, dans la section bande dessinée. Ensuite, vous vous êtes tourné vers le graphisme, puis l'illustration jeunesse. Et aujourd'hui, si on regarde en arrière au fil de votre bibliographie, on peut dire que vous avez une activité d'auteur-illustrateur dense et diversifiée chez plusieurs éditeurs pour des magazines, magazines jeunesse, la publicité et bien entendu des albums jeunesse. Alors il me semble, Vincent Bourgeot, que vous affirmez au fil de votre travail votre plaisir à raconter des histoires en images.
Oui, oui, je crois que c'est vraiment le cœur de ce que j'aime faire et que j'ai découvert assez, peut-être pas assez tôt, mais à un certain moment, au tout début de la trentaine, vers cette époque-là. Je crois que c'est quelque chose qui me travaillait depuis longtemps de vouloir, à travers la bande dessinée, raconter des histoires. Et puis finalement, c'est un peu par accident que c'est arrivé, mais pour des histoires pour enfants, pour vraiment les petits. Et donc, je me suis, inventé auteur-illustrateur, avec vraiment cette envie de maîtriser en même temps l'histoire et l'image. Donc, de travailler l'histoire autant que le dessin. Et c'est devenu un peu mon plaisir et ce que je recherche un peu à transmettre par mes livres. C'est ce mélange du texte et de l'image. D'arriver à vraiment... peut-être dire fluidifier un peu le dessin par le texte et vice-versa. Alors on s'en rend peut-être pas compte, je sais pas, je crois que ça, il faut que ça soit naturel, et voilà, là on en parle ici, mais c'est vrai que quand on lit un album, il faut que ça coule tout seul, c'est ce que je recherche. Et donc moi, de mon côté, c'est de vraiment décortiquer comment un mot peut déclencher une situation qui va amener une image et comment une autre image va, dans l'autre sens, me débloquer sur un autre mot et ainsi de suite jusqu'à arriver à raconter une histoire.
Donc des histoires drôles, des histoires tendres, des aventures.
Oui,
des
oui,
histoires
oui.
De pirates, de sorcières.
Oui, oui, il y a toute la mythologie classique revisitée par nombre d'auteurs illustrateurs ou d'auteurs. Oui, c'est-à-dire qu'on a quand même un magnifique, magnifique décor, enfin plein de matière à travailler hein, dans la littérature pour enfants. On est tous constitués de ces histoires hein, aujourd'hui au XXIe siècle. Et pour nous les auteurs, j'imagine que pour pas mal de gens, c'est un grand plaisir d'aller piocher dans une sorte de grenier et de manipuler tout ça, que ce soit. Des histoires de princesses, des histoires de pirates. C'est marrant, il y a vraiment des grandes trames qu'on peut utiliser. Et ça m'est arrivé de vouloir aller explorer d'autres trames et puis de sécher un peu. Par exemple, là j'allais dire cow-boy, des histoires de cow-boy.
Ouais.
Très difficile. c'est pas du tout la même chose, quoi. On est dans un espace beaucoup plus vierge ou qui renvoie plus au cinéma, voilà, à une époque qui est plus l'adolescence.
Même si en bande dessinée, il y a le fameux Lucky Luke.
Voilà, alors ça revient dans la bande dessinée.
Il a pris toute la place, peut-être.
Oui, et puis c'est pas vraiment pour mon public à moi, qui est plutôt des enfants de 5, 6, 7 ans. Quoi.
Alors, nombre d'images de vos albums sont réalisées à la gouache.
Ouais.
Décrivez-nous donc quelles sont vos préférences et pourquoi, me semble-t-il, vous avez évolué dans votre travail et lâché le pinceau pour la palette graphique sur ordinateur. Alors, que s'est-il passé ?
Vous avez lâché la matière pour des pixels, voilà, ouais, bah c'est exactement ce qui s'est passé. Mais j'ai travaillé pendant de nombreuses années, et puis finalement l'ordinateur commençait à balbutier, on va dire, dans les années 90. Donc j'avais choisi comme média la gouache. Après avoir essayé un peu plein de techniques différentes, allant de la craie à l'aquarelle, au crayon. Et le jour où j'ai découvert la gouache, ça a été un vrai plaisir. Je crois que c'est vraiment ce qui traverse tout mon travail. Je recherche vraiment du plaisir. Et la gouache, ça a été un vrai bonheur de faire de la tambouille, en gros. C'est un peu ça, c'est mélanger de la matière avec de l'eau. C'est très agréable. Et puis ça fait des très belles images. C'est très, très, très belle matière à travailler. Donc avec cette matière-là, j'ai façonné un univers pendant une dizaine d'années. Pour finir par me lasser, en fait. Il y a vraiment une lassitude. Je suis un illustrateur qui a tendance à creuser un sillon plutôt qu'à explorer dans tous les sens. Alors, je pense que je me suis épuisé dans mon sillon.
La sensation d'être arrivé
au bout
du sillon.
Voilà. Tel un vieil agriculteur fatigué. Et au lieu de peut-être un autre illustrateur aurait peut-être rebondi sur une autre façon d'exploiter la gouache, parce qu'évidemment il y a des milliers de choses à faire, tout est inventé en permanence. J'ai lâché cette matière-là pour explorer une autre voie complètement différente et même presque opposée, qui est donc le numérique, et dans lequel j'ai trouvé ce qui me manquait avec cette technique de la gouache qui pour moi était très maîtrisée. Je travaillais vraiment dans la maîtrise totale de la couleur, du trait. Il y avait très peu de place à l'improvisation. Et je crois que c'est ce qui m'a un peu épuisé. Et que je suis allé chercher dans le dessin direct à l'ordinateur, qui est donc pour imaginer, alors c'est peut-être pas facile à la radio, mais pour imaginer, c'est dessiner sur un petit carton en plastique, une petite tablette en plastique, et voir en fait le dessin à l'écran. Ça ressemble, c'est vraiment du dessin, il n'y a pas de, c'est pas du calcul, c'est vraiment du dessin à l'écran. Et moi, ce qui m'a plu dans cette technique, c'est la spontanéité, justement, c'est de pouvoir lâcher un trait ou lâcher une grosse masse de couleurs et de voir ce qu'on peut faire avec, de laisser vraiment toute la place au trait, au geste, en fait, à ce que cherchent finalement beaucoup, beaucoup de plasticiens. Je crois ça peut me permettre de parler d'autre chose. Il y a chez moi, et je pense chez beaucoup d'illustrateurs jeunesse, mais je pense chez beaucoup de plasticiens, une fascination pour la liberté du dessin des enfants.
Oui.
Qu'on voit à l'âge de 4, 5, 6 ans, avant la maternelle, où souvent après le dessin se canalise un peu. Et donc cette espèce de beauté qu'on trouve dans les dessins des enfants, bon, moi je fais partie de ceux qui je pense, aimeraient bien retrouver ça.
Voilà, c'est ça, une volonté.
C'est assez freudien de revenir à cette liberté, à cette sorte d'innocence. Et voilà, j'ai dû trouver un petit peu ça dans la technique de la palette graphique. Pouvoir lâcher des choses et puis voilà, tranquillement, sans se soucier de ce que ça donnera après, quoi. On efface, on recommence.
Oui, c'est vraiment...
C'est très libre.
Oui, limite opposée, effectivement, avec le travail à la gouache, où il y a le dessin, où effectivement, ça demande beaucoup plus de temps pour créer une image.
Tout à fait, oui. Ouais. Peut-être que je vais à l'envers, je me rapproche de l'enfance.
Ouais. Alors, depuis 2 ans, Vincent Bourgeot, vous collaborez avec Cédric Ramadier. Une belle rencontre, et vous formez un duo duquel est né un ogre. Là, on rentre tout de suite dans un livre. Et une entrée en fanfare dans la collection Loulou et compagnie à l'école des loisirs, avec Dans les nuages, Un mouton et Au creux de la main, des albums cartonnés à destination des tout-petits, doux et poétiques. Entre le jeu et la surprise. Donc voilà, il y a l'aspect... invention, volonté de raconter des histoires. Et puis, il y a aussi des rencontres et des collaborations, puisque donc, vous êtes auteur et aussi illustrateur. Cette rencontre avec Cédric Rabadier, qu'est-ce que ça apporte aussi dans cette recherche et cette volonté d'approfondir son travail et de continuer à évoluer?
Alors, travailler avec quelqu'un d'autre, c'est... en tout cas, de cette manière-là, c'est-à-dire on forme vraiment une sorte de tandem, hein. C'est vraiment ça, on est à deux sur un vélo et ça marche vraiment bien quand, quand on est deux à pédaler. Voilà, je fais une belle image.
Ouais.
et Cédric, il m'apporte voilà, des histoires, un univers qui n'est pas forcément le mien, donc je ne suis pas très très loin. Mm-hmm. Mais évidemment, il va dans sa direction à lui et une direction qui me plaît beaucoup. Je suis très très souvent d'accord avec ses propositions. Quoi. Mm-hmm. On a rarement de divergences. Même s'il y en a de temps en temps. Et ben voilà, il m'apporte je pense, une ouverture, quoi. Il m'amène sur d'autres histoires. Puis il m'amène aussi une liberté. Je me soucie plus de l'histoire. Je suis uniquement dans comment raconter en images, pour le coup, à partir d'une histoire que lui me raconte. Quelle solution trouver, autant au niveau graphique qu'au niveau de l'objet, hein, avec cette collection de livres chez Loulou et compagnie, sont des livres cartonnés assez présents, hein, ils sont assez gros, ils sont souvent en forme découpée, le carton est découpé. Donc il y a aussi cette idée de travailler avec
la forme intervient.
La forme, voilà, qui est très importante.
Donc pour imager la forme donc, dans les nuages,
voilà,
donc, au fil des pages, on voyage, on est vraiment la tête dans les nuages.
Exactement, donc c'est un texte que j'ai tout de suite trouvé très beau. Qui est très simple, hein. Il se passe à peine de choses, on peut en lire un extrait.
Oui, mais c'est pour les tout-petits.
C'est pour les tout-petits, mm-hmm. Et ça parle juste d'animaux qui volent de page en page dans les nuages. C'est presque une poésie, hein, je pense, ce texte. Mm-hmm. Et donc moi, une fois que je reçois un texte comme ça, qui m'émeut vraiment, comment faire pour dessiner juste une coccinelle, un papillon, une hirondelle qui passe dans les nuages. Et donc voilà, l'idée que j'ai trouvée, c'était de vraiment concevoir des nuages. Donc le livre est en forme de plusieurs nuages superposés qui donnent cette espèce de légèreté au livre.
Même chose avec Au creux de la main.
Là, par exemple, c'est Cédric qui avait l'idée. C'est Cédric avait apporté l'idée d'avoir la main qui soit la forme du livre. Et cette idée m'a plu, donc on est parti là-dessus directement. Donc là, c'était déjà un peu plus canalisé par Cédric. Mais voilà, tout est... À chaque fois, c'est une proposition, on rebondit de l'un à l'autre et c'est toute la richesse de travailler à deux.
Et la surprise, donc, au creux de la main, j'ai quelque chose de précieux. Il y a toujours une chute, il y a toujours une surprise.
Oui, oui, ouais, on arrive...
De manière générale.
Oui, 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 oui. Pour l'instant, on verra. On verra la suite si on fait des fins abruptes.
Alors, Au-delà de moi vient de paraître chez Thierry Magnier. Donc ça, c'est le tout petit dernier dont vous êtes auteur et illustrateur, Vincent Bourgeot, qui suit le fil tout en rondeur du regard grandissant de l'enfant, qui questionne Au-delà de moi. Est-ce que c'est un livre plus intime que les précédents, Vincent Bourgeot?
Oui, c'est clair que j'ai un peu quitté l'histoire, justement, de raconter une histoire. Voilà. Je suis un peu sorti de ce schéma qui me plaît beaucoup. Hein. J'adore raconter une histoire, prendre des personnages et les animer un peu comme des marionnettes, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Pour ce livre-là, Au-delà de moi, c'est venu d'une écoute, en fait, radiophonique. Donc j'ai entendu, en fait, un conte tzigane, hein, qui était évoqué par je ne sais plus qui, j'ai aucun souvenir de ça, mais bon, l'histoire m'a vraiment touché. Alors ça devait résonner dans quelque chose de très personnel, je ne l'ai pas exploré vraiment. Par contre, ça m'a donné envie de partir de cette histoire que j'avais entendue et de la retravailler pour y apporter mon dessin, mon histoire. Donc, bon, ça c'était un point de départ un peu différent pour moi. Et c'est vrai qu'au final, ça parle c'est une sorte de petite pensée sur l'ouverture au monde. Et c'est pas une histoire, c'est vraiment une sorte de petite pensée presque philosophique sur comment on s'ouvre, comment un enfant s'ouvre, et comment graphiquement je le traduis. Avec tout un jeu de typographie, de symbolique, avec un rond qui au début est l'utérus.
Toute la première couverture.
Qui est sur la couverture, on commence vraiment avec le ventre, on est à l'intérieur du ventre de la maman. Et puis on en sort, voilà, à travers le livre, pour finalement se lâcher complètement dans le monde, dans l'univers. Donc c'est complètement une autre démarche.
Oui, un livre beaucoup plus universel finalement.
Oui, c'est ce que j'espérais. J'étais pas du tout sûr en commençant et je suis très content du résultat final. Mais ça, c'est l'aventure de l'écriture d'un livre. On sait pas trop. Mm-hmm. Surtout dans ce genre de format où il n'y a pas d'histoire. Et en ce qui me concerne, ça me donnait moins de prise pour me raccrocher. Mm-hmm. Parce que finalement, écrire une histoire, il y a des trucs, on peut tricoter un peu. J'imagine pour pas mal d'auteurs, on sait à peu près comment faire. C'était plus se rapprocher d'une poésie. Bon, c'est pour moi, en tout cas, moins évident.
C'était aussi une nouvelle collaboration aux éditions Thierry Magnier. C'est une rencontre aussi avec un éditeur.
Oui, c'est
directeur de collection.
Un peu plus particulier que ça. Avant d'être une rencontre, c'était une envie d'écrire pour cette collection, qui est une très très belle collection qui s'appelle Tête de l'art chez Thierry Magnier, qui sont des petits livres carrés, cartonnés, dans laquelle se trouvent plein de bijoux de littérature jeunesse. Et donc, je crois qu'il y avait une envie de rentrer dans cette espèce de mini-panthéon qui est très sympathique. Mm-hmm. Et en fait, quand cette idée m'est venue, cette histoire, quand je l'ai entendue, je pense qu'immédiatement, je savais que ce serait pour cette collection. Donc, ça a commencé comme ça, tout seul dans son coin, à se dire, si j'en fais quelque chose, je proposerai à Thierry Magnier. Une fois qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour l'écrire, hein. Il m'a fallu, je sais pas, une ou deux années, alors que bon, il y a 12 pages. Hein. Mais une fois le projet en route, je suis allé voir donc Thierry Magnier. Et là, il y a une vraie rencontre avec Antonin Louchard, qui s'occupe de cette collection et qui m'a beaucoup aidé à débloquer un peu tous les passages qui n'étaient pas évidents, que je n'avais pas complètement résolus. Mm-hmm. Voilà, une très belle rencontre. Et l'éditrice Valérie Cussaguet, je la connaissais déjà, donc ça c'était un peu plus facile. Enfin, plus facile, c'est pas le problème, mais on a pu directement rentrer dans le projet, être d'accord sur ce qui allait bien, être d'accord sur ce qui n'allait pas bien aussi. Mm-hmm. J'étais pas encore tout à fait satisfait du projet. Et puis aller plus loin, quoi. Donc oui, c'était un très très beau travail éditorial pour moi.
Bien, alors Vincent Bourgeot, vous n'allez pas vous en tenir là, je crois. Hein, il y a d'autres titres à paraître, aux éditions Autrement notamment, dans la collection Histoire sans parole.
Histoire sans parole, là aussi une très belle collection. C'est un livre qui va s'appeler Le Petit Train. Et donc je peux difficilement parler, qui va narrer les aventures de plusieurs personnages dans un petit train qui traverse différents paysages. Donc là, on est vraiment dans une histoire cinématographique où on part de gauche à droite, on tourne les pages, on suit un petit train et il lui arrive des aventures graphiques. Mm-hmm. Voilà, j'en dis pas plus.
Non. Donc apparaître à la rentrée ?
À la rentrée, non, non, pas à la rentrée, pardon, ce sera en 2011. Ce sera en mars 2011.
Ouais. Bon, alors en attendant, sur le quai de la gare, Le Petit Train, voilà. Aux éditions Autrement. Rencontrer Vincent Bourgeot, c'est entrer en collusion avec son regard tendre et malicieux sur l'enfance, les couleurs et la douceur, le tout s'inscrivant dans la continuité et l'évolution d'un parcours personnel, aussi une réflexion sur ce qu'est être auteur, illustrateur. Vincent Bourgeot, merci beaucoup et au plaisir.
Merci, merci beaucoup, à bientôt.
énergie qui swing, des racines dans le manouche, des incursions brésiliennes, le cœur qui bop, c'était Alerte au Jazz, haut de la Claire Fontaine. Et tout de suite, amorçons le Festival International du Documentaire de Marseille avec une rubrique spéciale du petit cinéma de Photokino autour de la programmation de l'écran parallèle des sentiers, des films à partager avec les enfants. À partir de 6 ans, on retrouve Nathalie Guimard et la magie du cinéma.
Le petit cinéma.
Si vous suivez cette émission régulièrement, vous ne serez pas surpris. Le petit cinéma largue les amarres chaque mois de juillet depuis 5 ans. Pour vagabonder sur les sentiers du FID Marseille. Le FID Marseille, c'est le Festival International du Documentaire, dont cette édition sera la 21e et se déroulera du 7 au 12 juillet dans plusieurs lieux de Marseille, le cinéma Les Variétés, le théâtre du Gymnase, l'Alcazar et le CRDP. Le FID Marseille réunit dans sa programmation des films inédits du monde entier, en compétition, films que l'on pourrait appeler documentaires, mais pas seulement. Certains films sont de la pure fiction, d'autres encore pourraient être présentés dans une galerie d'art. Il y a les compétitions françaises et internationales qui donnent des prix aux meilleurs films, choisis par le jury. Il y a aussi les écrans parallèles, c'est le nom donné à des programmations de films autour d'un thème qui, elles, ces programmations, peuvent réunir des films anciens et inédits librement. C'est le cas de l'écran Les Sentiers que Photokino programme depuis 2006 et dont je vais vous présenter dans quelques instants les films 2010. Les Sentiers, c'est un écran qui s'adresse à tous, même aux enfants de plus de 6 ans au moins. Comme chaque année, les sentiers aiment les chemins de traverse et empruntent des passages plus mystérieux, nous surprennent plus d'un tour, car le cinéma, c'est décidément magique. Vous pourrez voir, si vous le voulez, 4 programmes différents et 15 films en tout dans cet écran. Je ne pourrai pas ici parler de tous, mais commençons par parler de celui dont le son accompagne mes palabres depuis déjà 2 minutes. Passing. Passing est un film de Seong Joong-Li, un jeune Coréen récemment diplômé du Royal College of Art à Londres. Réalisé en papier découpé, Passing revisite les techniques ancestrales des ombres chinoises à travers un long travelling à travers le paysage, des plaines à la forêt et de la ville au port. Passing est un des films qui composent la séance 1, composée de 5 courts-métrages, tous aussi étonnants les uns que les autres. C'est un film réalisé dans le cadre d'une école d'art, tout comme un autre film du programme franco-hollandais, celui-là, est produit dans le cadre de l'école du Frénois. Plastic and Glass, de Tessa Jous, qui se déroule dans une usine de tri sélectif, où machines et hommes trient nos déchets afin de les recycler. Le plastique avec le plastique, le verre avec le verre. Peu à peu, le son des machines et des gestes semble participer à la création d'une mélodie plutôt jazzy. Tandis que plus bas, conduisant un chariot élévateur, un des ouvriers commence à chanter.
glass. Paper, rocks and scissors. Plastic and glass. Plastic and glass. Paper, rocks and scissors. I built you a mountain of cardboard. And a sea of glass, of course. A tree for the shade will be made of some fine aluminum foil. Plastic and glass. Plastic and glass. Cardboard. Cardboard. I build us an island of leisure. With a paper mache fence. Whatever will be, we're together. And you have to make amends. Plastic and glass. Plastic and glass. Cardboard.
Ooh.
Cardboard. If you start nagging again, my dear, like you did last night in the dark, I sort you out and I break you down to start anew with a spark.
Plastic and glass. Plastic and glass. Cardboard. Cardboard.
Je parlais de magie. Venez voir synchronisation, ou plutôt synchronisation, si vous ne me croyez pas. Dans ce court-métrage lituanien de Rimas Sakalauskas, ce sont trois tours de prestidigitation monumentaux qui font disparaître de trois paysages. Tout d'abord, une sphère en métal au cœur d'un jardin d'enfants, puis un château d'eau et une tour de télécommunications. Lentement, il se détache du sol et s'élève dans le ciel dans un tournoiement hypnotique comme une toupie ou telle une fusée.
Le petit cinéma.
Dans la séance numéro 2, quatre films dont Madagascar carnet de voyage de Bastien Dubois qui nous emmène dans ses bagages sur l'île Rouge à la découverte de ses paysages et des visages qu'il croise. Une traversée à travers un pays, sur terre, sur l'eau, dessinée, peinte, tracée de papier collé de notes sur le carnet, puisque Bastien Dubois a bien fait un carnet de voyage, qu'il a ensuite animé minutieusement et patiemment, image par image.
Madame la Topco.
Bonjour.
Ah, salut voisin. Viens, assieds-toi.
Merci.
Alors, tu aimes Madagascar?
Oui.
Tu connais le Famadien?
Le Famadien.
Le retournement des morts.
Le retournement des morts?
Attends, t'en fais un dans un mois. Tu peux venir.
Ah, c'est sympa, ok. C'est où?
Il faut prendre le taxi Bruce, compagnie Kofiam, direction Atirapé. Je te donne l'adresse. On se verra là-bas, hein?
Ok, pas de problème. Ça marche. Vélo mort.
Will you brats keep quiet? Brats, c'est le titre d'un court-métrage américain de 1930, interprété par les célèbres Laurel et Hardy, qui jouent dans ce film deux rôles chacun, celui du père et celui de l'enfant. Les papas d'un côté, Laurel et Hardy, jouent aux dames. tant bien que mal. Les petits de l'autre, Hardy et Laurel, jouent au cube, se chamaillent et font tout pour ne pas aller au lit. Bratz joue des échelles et des cadrages pour créer l'illusion d'un monde vu à hauteur d'enfant. Maintenant, allongeons-nous et écoutons la berceuse que papa Hardy va chanter pour nous.
Now lie down and I'll sing for you. Go to sleep, my baby, my baby, my baby. Go to sleep, my baby, my baby, my baby.
Bratz, c'est un des courts-métrages de Laurel et Hardy qui a inspiré le génial réalisateur français Jacques Rosier pour le film Nono Nénès en 1975 avec Bernard Ménez et Jacques Villeray en petit enfant. Par un beau matin de 1929, John Bannock Byrne dit Nono et Ernest William Sington dit Nénès furent confiés par leur maman venue de Calcutta aux soins de la terrible Miss Phyllis Plunkett en sa nurserie de Nightingale Greenfields et installés côte à côte dans le même berceau. Ce film rare, vous pourrez le voir pendant le film Marseille, dans l'écran Les Sentiers, à la suite de Bratz de Laurel et Hardy, et il peut vous être présenté grâce entre autres au travail de l'association Extérieure Nuit, qui depuis plus de 20 ans compose des programmes remarquables en hommage au cinéma, et grâce à Jacques Rosier, qui ne cesse de faire du cinéma. Merci.
Le petit cinéma.
Je vous avais prévenu que je ne pourrais pas parler des 15 films de l'écran sentier, mais je veux au moins citer le In the Street d'Hélène Levitt, qui balade sa caméra cachée dans les rues du quartier d'Harlem à New York en 1952, mais aussi le film Pour le Mistral de Joris Evans, réalisateur néerlandais, grand nom du cinéma documentaire, qui rend hommage au vent bien connu des Marseillais en 1966. Et il y a aussi Le Monde étrange d'Axel Henriksen, du très grand réalisateur encore Jean Painlevé, plus connu pour ses films mettant en scène les créatures sous-marines, parfois minuscules et souvent fantastiques, avec beaucoup de poésie. Lors d'un voyage au Danemark, il a rencontré ce monsieur Axel Henriksen, sculpteur de créatures fantastiques en bois ou en os. Et bien sûr, il a décidé d'en faire un film.
Mais Axel est forgeron. Pendant ses loisirs, il réalise des objets variés. Il sculpte aussi le bois. Pour lui d'ailleurs, chaque morceau de bois est évocateur. Bien d'autres ont vu dans les morceaux de bois des figures, des êtres étranges ou les y ont sculptés. Mais chez lui, il s'agit d'une véritable obsession. Il décèle, avec un minimum de retouches, une forme aimable ou monstrueuse, grotesque ou lyrique, amusante ou fantastique. Cette vocation lui est venue en 1942, après s'être pris le pied dans une racine. La voici, c'est ce berger à la houlette.
Voler, c'est dérober quelque chose à quelqu'un, chipper, escroquer. Mais c'est aussi se déplacer dans les airs. comme un oiseau ou un avion en papier. Entre l'obscurité des ruelles du quartier de la Joliette et l'écrasante lumière du ciel marseillais, les mots se croisent et voltigent dans la bouche des enfants, acteurs, auteurs d'un film réalisé dans le cadre d'un atelier de pratique cinématographique proposé par l'association Peuple et Culture Marseille. Un atelier encadré par Pilar Arcila, un film qui s'appelle « Vol d'essence ».
Hi, on t'a de sa chance, monsieur, là, avancez.
Bonjour. Est-ce que vous savez conjuguer le verbe « vol » ?
Le verbe « voler » ?
Vol.
Vol. Je crois, c'est... Je sais.
D'accord, je gagne.
Je vole. Tu voles. Elle vole. Nous volons. Vous volez. Il vole.
C'est vraiment impressionnant, quoi.
Bonjour. Allez, venez l'essayer, assurez vos places et vos tickets dans quelques instants. Assurez vos places et vos tickets, venez l'essayer.
Vous pourrez voir donc tous les films de cet écran entre le mercredi 7 et le lundi 12 juillet à l'Alcazar, le mercredi 7 à 15h, le jeudi 8 à 13h, le vendredi à 15h45, le samedi à 11h. Et je précise que à l'Alcazar, c'est gratuit, donc tout le monde peut y aller. Et nombreux aux variétés et au CRDP, les séances sont en qualité optimale puisque les films sont souvent programmés en pellicule. Et bien sûr, vous aurez la chance de pouvoir rencontrer quelques-uns des réalisateurs présents, notamment Pilar Arcila pour Vol d'essence et j'espère bien Jacques Rosier pour Nono Nénès. Merci pour votre attention et rendez-vous au FID. À bientôt.
Alors toujours en ce début de vacances d'été qui approche, les programmations spectacles, animations, rencontres, expositions sont nombreuses avec Nathalie Guimard et Vincent Bourgeot qui est resté jusqu'à la fin de
Chouette.
L'émission aujourd'hui. Eh bien, quelques idées comme ça, on n'a plus trop le temps, quelques idées. Alors je commence. Une exposition d'après nature du 26 juin au 31 octobre et ça se passe au Château d'Avignon si vous passez en Camargue. Sur la route des Saintes-Maries de la Mer, un très beau château au milieu d'un grand parc, où sont alliés là l'idée de le patrimoine, bel espace et les créations contemporaines, donc 27 artistes, une sélection de leurs œuvres qui sera exposée et qui revisite ou nous donne à lire et à voir leur idée de nature, le lien qu'on n'entretient pas, qui se détruit, qui se construit avec notre environnement. Nathalie, Vincent, qu'est-ce que vous proposez ?
Alors moi, je vous propose d'aller caresser le potager au parc de la Mirabelle. C'est le nom d'un très joli nom de festival qui a lieu le 22, le 23 et le 24 juillet. Vous pouvez y aller en tram au Cayol. Et je vous recommande, j'ai repéré dans la programmation, un film qui s'appelle Patate d'un artiste marseillais, Damien Louche-Pellissier, qui sera visible le jeudi 22 à 23h20 précise. Voilà, c'est gratuit et c'est une occasion de prendre le tram jusqu'au bout.
Et de pique-niquer devant un film.
Très bonne idée.
À Aix-en-Provence, au musée Granet, une exposition du grand peintre contemporain issu du mouvement Cobra, Pierre Alechinski. Et donc cette exposition a commencé le 5 juin et elle aura lieu jusqu'au 3 octobre. Il y a aussi des ateliers pour les enfants et même un stage Mes Vacances au musée autour d'Alechinski. Donc renseignez-vous au musée Granet, information 04 42 52 88 32.
Et sinon à Marseille, une chose aussi à recommander, une illustratrice marseillaise qui s'appelle Catherine Chardonnet et qui nous invite à visiter des masques en volume et quelques dessins au crayon de couleur. C'est un très très beau travail et vous pouvez voir tous ces dessins et ces volumes au 7 rue de l'Olivier dans la vitrine.
Merci, l'émission touche à sa fin. Merci Nathalie Guimard et Sébastien Gély pour cette émission et toutes les précédentes et ce depuis 3 ans. Aujourd'hui c'est la dernière de l'année scolaire, juste avant les vacances. Merci aussi à Vincent Bourgeot qui était notre invité du jour. Nous nous retrouvons le mois de la rentrée scolaire le mercredi 23 septembre. En attendant, pendant l'été, une émission spéciale autour de la figure du petit chaperon rouge sera diffusée le mercredi 28 juillet. Pour plus d'informations et réécouter les archives sonores, rendez-vous sur la page de l'émission Un caillou dans la chaussure sur le site de Radio Grenouille, www.grenouille888.org. Merci à tous et très bon été. À bientôt.